Le réseau Afrique Santé de la Voix de l'Amérique propose
Votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir est exclusivement axé sur la lutte contre le sida en RDC.
Réalisation Georges Léonard Sagno, votre santé, votre avenir commence maintenant. Le taux de prévalence du VIH-Sida en RDC est de 1,1% dans la population générale, alors qu'il est 3,5% chez les femmes enceintes. Mais depuis que la RDC a mis en place le programme Option B+, les femmes enceintes séropositives du VIH obtiennent l'aide et le soutien dont elles ont besoin et un traitement dans le but d'aider à prévenir la transmission du virus à leur bébé. Ce procédé, communément appelé prévention de la transmission mère-enfant, PTME, est en pleine application à RDC. Quels en sont les résultats? Nous aurons dans cette émission nos invités et nos participants. Notre invité principal est...
Je suis le docteur Faustin Kitetele. Je suis médecin responsable de l'unité des maladies infectieuses à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe à Kinshasa, RD Congo. Je suis heureux de participer dans votre émission « Votre santé, votre avenir ».
Merci docteur. Gardez la ligne. Nous aurons aussi nos correspondants qui se trouvent dans deux ou trois provinces de la RDC. D'abord de Goma, nous aurons Awa Linda. Awa.
Bonsoir Aline, bonsoir à notre invité et à tous les auditeurs.
D'accord, vous êtes en déplacement actuellement à Bukavu, c'est pour préciser. Merci, restez en ligne. Nous aurons aussi Mustapha Kemal. Mustapha.
Bonsoir Aline, bonsoir à tous les amis auditeurs, auditrices de votre santé, votre avenir. Je vous dis bonne santé à tous. Bonsoir.
Nous aurons à Kindu, Modeste Chabani. Modeste, vous êtes là? Bon, non, nous essayons de retrouver une Modeste dans un instant. Je suis avec Chouchou Kawa. Chouchou, bonsoir.
Bonsoir Khalil Gué et bonsoir à tous les auditeurs.
Merci. Docteur Kitetele, selon des chercheurs, environ près de 1000 bébés à travers le monde sont infectés au VIH par jour pendant la grossesse, la naissance ou l'allaitement. Comment voyez-vous ça en RDC?
Merci pour la question. Ce que je pourrais dire, il y a beaucoup de bébés qui sont infectés jusque-là, c'est vrai. Mais les efforts sont entrepris à travers le monde pour réduire sensiblement les chiffres. Déjà dans les pays du Nord, on peut dire que la transmission du VIH de la mère et à l'enfant a presque disparu et est devenue quasi inexistante parce qu'ils ont entrepris des actions qui ont pu donner des résultats. Avec l'approche que le Nord a utilisée, si le Sud aussi pouvait avoir le moyen nécessaire pour arriver à résoudre les mêmes approches, les mêmes actions, je pense qu'on va réduire sensiblement le nombre d'enfants infectés par le VIH à partir de leur mère. En ce qui concerne la RDC, il est vrai que la lutte continue. Autrefois, on utilisait l'approche qui était très simple, où on donnait un médicament prophylactique à la mère, à la transmission, et cette transmission n'était réduite que de moitié. Mais aujourd'hui, la politique du pays a changé. On a opté pour l'option B+, depuis l'année passée, selon les recommandations de l'OMS, qui veut que toute femme enceinte devienne éligible au traitement antirétroviral. Et avec cette approche, nous pensons que nous allons réduire sensiblement le nombre d'enfants infectés par le VIH à partir de leur maman. Les efforts doivent s'intensifier vu que la couverture n'est pas totale au niveau du pays.
Pour les quelques cas quand même qui ont été traités bien avant l'avènement du B+, on a vu que la RDC a quand même enregistré quelques succès par rapport à la PTME. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, il y a eu beaucoup de succès. Il y a eu quand même du succès. Nous devons de reconnaître l'option A qu'on avait utilisée. La PTME existe en RDC depuis 2002. Il faut reconnaître qu'en 2002, c'était une société privée qui avait commencé. Et puis, une université du Nord qui est venue appuyer davantage en prenant en charge les femmes enceintes dans plusieurs sites du pays. Et aujourd'hui, ça s'est intensifié davantage. Donc, si nous devons comparer ou faire les statistiques par rapport en 2002, nous pouvons dire que nous avons largement progressé, mais ce n'est pas encore assez.
Merci, docteur. Nous allons passer, Chouchou, maintenant à nos correspondants.
Awalinda, vous êtes à Bukavu. Est-ce que vous avez une question pour le docteur Kitetele?
Oui, le docteur a dit qu'avec la PTMI, il y a quand même des avancées, même si on n'arrive pas encore à un taux très élevé des enfants qui, à la fin, sont séronégatifs. Alors, je voudrais savoir, à son avis, qu'est-ce qui bloque pour que le taux soit encore bas? Il y a eu des avancées, mais jusque-là, il y a encore des enfants qui sont atteints. À son avis, qu'est-ce qui bloque encore?
Docteur?
Je disais tout à l'heure que si on n'arrive pas à avoir des taux très très élevés, mais ce que nous avons aujourd'hui est quand même élevé par rapport à ce qu'on avait en 2002, même les taux de négativité chez les enfants. Si on n'arrive pas, c'est un problème d'abord des couvertures. Si vous regardez les statistiques de l'OMS, les dernières statistiques, vous verrez que parmi les 22 pays prioritaires, la RDC se retrouve en dernière position. La RDC n'a une couverture en ce qui concerne la PTMI ou la couverture en ARV qui est de 13%. Et c'est vraiment faible. Avec ce taux, c'est normal que nous ne puissions pas soigner ou prendre en charge toutes les femmes enceintes infectées par le VIH. Donc, ainsi, il y a encore des efforts qui doivent être fournis. Nous devons étendre la couverture d'intervention PTMI et également la mise sous traitement de femmes enceintes dans tous les pays. Aussi longtemps que la couverture sera basse au niveau du pays, nous pouvons dire qu'il y aura toujours des enfants qui naîtront avec le VIH.
Awalinda, gardez la ligne. Nous allons avancer vers Goma, Chouchou.
Oui, à Goma. Moustapha, votre question pour le docteur, à vous la parole.
Au niveau de Goma, dans les hôpitaux, dans les centres de santé où les femmes font les consultations prénatales et CPN, la plupart, on préfère les envoyer dans les centres pour faire l'échographie et la radiographie. Et puis là-bas, il n'y a que les femmes qui ont peu de moyens qu'on envoie là-bas parce que les examens là-bas coûtent $15. Alors, je me pose la question au niveau des docteurs. Pourquoi choisir renvoyer les femmes et nos mamans, nos épouses ou nos sœurs à l'échographie au lieu de commencer par le dépistage et qui est l'étape nécessaire?
D'accord. Docteur, allez-y.
Oui, merci pour la question. Je vais dire ce qui est normal, ce qui est dans les normes. Toute femme qui vient pour le CPN, si nous voulons réussir à lutter contre le VIH-SIDA, le prestataire du centre doit proposer à la dame le test de dépistage, pas seulement à sa femme, à la femme, mais également demander à la femme d'inviter également son mari. Donc c'est l'unique moyen si nous voulons lutter contre le VIH. Bon, on préfère les envoyer faire la radiologie et l'échographie. Je ne sais pas la politique utilisée sur place. La radio et l'échographie, elles sont payantes. Mais le test de dépistage est gratuit. D'ailleurs, le programme, la politique nationale prône aujourd'hui les clientes ou les femmes enceintes qui arrivent dans des centres, pas seulement les femmes enceintes, toutes personnes qui arrivent, on ne doit pas attendre que la personne puisse solliciter le test de dépistage. C'est les prestataires qui doivent prendre le devant. Autrefois, c'était les patients qui venaient, qui sollicitaient le test de dépistage. Donc aujourd'hui, c'est le prestataire qui est devenu l'acteur principal, si vous voulez. C'est le prestataire qui sollicite le test de dépistage. Donc, si cela ne se fait pas, je demanderai aux prestataires qui nous suivent d'essayer un peu de changer la façon de voir les choses et de proposer le test de dépistage à toutes les femmes enceintes qui viennent pour le CPN. Nous luttons tous. Nous voulons tous qu'il y ait amélioration
Nous voulons tous arriver à une génération sans sida. Mmh. Pour y arriver, nous devons tous être des acteurs et non attendre que les femmes elles-mêmes proposent le test de dépistage. Donc l'effort de tous est exigé, si vous voulez. C'est ensemble que nous arriverons à vaincre ce fléau.
Merci beaucoup. Et il reste quand même entendu que le dépistage est volontaire.
Le dépistage est volontaire.
Il est volontaire.
Mais le prestataire propose le dépistage.
Mmh. Il peut lui proposer, d'accord.
Mais ça reste volontaire.
Ça reste volontaire. Merci. Docteur, gardez la ligne. Nous allons aller à Kindu écouter notre correspondant sur place, Modeste Chabani. Modeste, allez-y avec votre question, docteur Kitetele.
Avant toute chose, je dis bonjour et bonsoir à toute l'équipe et aussi au docteur qui est avec nous. Ma question au docteur, est-ce qu'il est au courant de la situation de la PPN dans la province d'Imaniema? S'il est au courant ou s'il n'est pas au courant, la situation de la PPN reste le maillot le plus faible dans la province. Du fait que, pour le moment, il semble qu'on est en train de passer de la phase de la prévention jusqu'à la phase de l'élimination. Et pourtant, au Maniema, on n'est même pas encore dans la phase de prévention. Est-ce qu'il est vraiment au courant de cette situation?
D'accord.
Et peut-être ma deuxième question pourra venir après la réponse.
D'accord.
À cette première question.
Merci Modeste. Docteur, allez-y avec votre réponse.
Merci pour votre question. Si vous m'avez suivi, j'avais dit que les efforts doivent être fournis. La couverture en PTM et la couverture en ARV d'une manière générale en République démocratique du Congo est encore faible. Même les statistiques de l'OMS, si vous avez l'occasion de voir les rapports de l'OMS, vous allez voir que nous sommes parmi les derniers pays avec un taux de couverture faible. Donc, ce que vous dites est vrai, ça reste le maillon faible. C'est difficile en tant que malade de parler de l'élimination lorsque la couverture n'est pas totale. Mais c'est l'engagement de tous. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Pour améliorer les choses, nous ne devons pas attendre que le programme national descende sur le terrain. Si nous avons le nécessaire, nous devons commencer quelque chose. Mais si nous ne faisons rien et qu'on attend que le programme national vienne faire quelque chose, que la politique fasse quelque chose, c'est vrai, le devoir du programme. Mais nous également, nous avons une part de responsabilité. Lorsque les femmes, moi j'ai parcouru pratiquement tous les pays, je sais ce qui se passe. Dans certaines structures, vous allez trouver, il y a même des tests VIH. Dans certaines structures, vous allez trouver même les ARV. Mais le prestataire, parfois, ne s'applique pas comme il faut. Il n'arrive pas à réaliser les counseling. Or, si nous nous disons que c'est l'affaire de tous, ce sont nos enfants qui sont exposés, ce sont nos sœurs, nos femmes, nos filles qui viennent accoucher et qui peuvent être infectées par le VIH, nous devons ne fût-ce que arriver à réaliser les counseling, à dépister celles qui sont infectées, et le mettre sous traitement pour éviter que l'infection ne puisse passer de la mère à l'enfant, nous ferons quelque chose. Donc, je l'ai toujours dit et je le dirai, c'est l'affaire de tous. À Maniema, il y a des centres qui disposent du nécessaire. Si vous n'avez pas de test et de dépistage, mais vous pouvez orienter les femmes enceintes, se faire dépister là où il y a le test de dépistage. Ensuite, elles reviendront accoucher s'il le faut dans votre structure. Donc, c'est l'affaire de tous. Je le répète et je le répéterai toujours. Avec le peu de moyens, arrivons à faire quelque chose pour contribuer à la baisse de la mortalité et de la morbidité liée à la morbidité et à la mortalité infantile.
Merci, docteur. Modeste.
Je vais rebondir.
Oui, allez-y.
Je vais rebondir, Khalil. Mm-hmm. J'ai fait la ronde à travers plusieurs structures sanitaires du Maniema. Mm-hmm. Le constat reste amer. Je ne sais pas si le docteur qui est avec nous peut peut-être accorder son attention par rapport à ce constat. Le premier constat est que les activités de PTM n'existent pas. Pas d'activité de dépistage des femmes enceintes au CPN. Aussi, pas de prise en charge des enfants PVV. Le dépistage précoce des enfants de ces mères PVV inexistant. Il n'y a ni même pas de papier brunage, sans même de prise en charge pédiatrique. Et une existence des ARV pédiatriques dans toutes les structures que je suis passé. La province du Maniema a 18 zones de santé. Mais sur les 18 zones de santé, il n'y a que 8 qui devaient être prises en charge par des filles, par rapport aux activités de PTM. Mais les filles Caritas, Corbeil, ils sont en train de fermer les portes et que ces activités n'ont même pas encore pris 1% de ce qui a été prévu. Pourtant, ils sont en train de fermer les portes. Et pourtant, le Sud Maniema même, n'en parlons pas, le Sud Maniema qui représente 52% de la population, où il y a 10 zones de santé, aucune activité de PTM. 3 zones de santé, à savoir la zone de santé de Kunda, la zone de santé de Salamabila, de Kalima, qui ont le taux le plus élevé, et donc le taux de prévalence est beaucoup plus élevé par rapport au VIH/SIDA. Donc, est-ce que vraiment ils sont au courant de ça, ou ils n'apportent pas seulement leur attention au Maniema? Et au moment où je vous parle, tous les partenaires qui interviennent dans la lutte contre le VIH/SIDA sont en train de partir. Ils sont partis.
Docteur, qu'est-ce que vous dites de ce tableau triste dressé par notre correspondant au Maniema, Modeste Chabani?
Vous avez la coordination provinciale du PNLS et vous avez également le PNMLS, programme multisectoriel de lutte contre le sida au Maniema. Je serais peut-être mal placé, je ne suis qu'un consultant, qu'un expert.
Ouais.
Vos questions, vous pouvez les poser au coordinateur provincial du PNLS de Maniema. Vous aurez peut-être de beaucoup plus de précisions que moi.
Avant de poursuivre avec le docteur et nos correspondants, nous allons nous rendre au Kasaï oriental, plus précisément à Mujimai, où, selon notre correspondant, plus de 90% de la population ne veut pas entendre parler du virus de Ebola. Et quant aux personnes vivant avec le virus du VIH-SIDA, elles vivent dans une véritable psychose.
Les PVV vivant en Mujimai soutiennent à 100% la lutte contre le virus Ebola. Elles estiment qu'en combattant Ebola, ça les protège aussi. Martin est une PVV.
L'Ebola, c'est une catastrophe qui frappe presque tout le monde, et les personnes saines et les personnes séropositives. Moi, je pense qu'en faisant une forte mobilisation contre l'Ebola, on est en train aussi d'épargner les personnes vivant avec le VIH qui pouvaient autre, qui sont plus vulnérables encore. Donc, ils seront plus vulnérables au VIH, vulnérables encore à l'Ebola, ça serait un peu quelque chose de négatif chez eux.
Cependant, Martin demande au gouvernement de ne pas oublier la lutte contre le VIH.
L'Ebola va passer, mais le VIH est là pour le temps. Alors, cela n'empêche que le gouvernement continue avec son plan d'action sur le VIH-SIDA.
Parmi la population, Ebola fait peur plus que le VIH. Oscar.
Entre le virus d'Ebola et le SIDA, je crains plus Ebola parce que sa manière de se propager est tellement incontrôlable.
Et toi, Régine?
D'après moi, c'est Ebola qui est plus grave, parce qu'avec le SIDA, je peux durer plusieurs années sur la terre. Mais avec Ebola, je peux faire 3 jours, c'est beaucoup.
De Mujimai, Jean-Hubert Bondo, votre santé, votre avenir, la voix de l'Amérique.
Alors, docteur, vous avez une réaction par rapport à ce reportage que vous venez de suivre?
Le VIH-SIDA est une pandémie, Ebola est une épidémie, et en plus, l'Ebola est une virose aiguë sévère. Tandis que le VIH, le VIH-SIDA est une pathologie chronique. Il y a déjà des différences. On peut vivre avec le VIH aussi longtemps que possible. Aujourd'hui, les statistiques le prouvent. Une personne infectée par le VIH qui est soignée peut vivre aussi longtemps que possible, avoir la même durée de vie qu'une personne qui n'est pas infectée. Alors qu'avec le virus de l'Ebola, l'évolution, comme je l'ai dit, c'est une affection aiguë, l'évolution est rapide. Ça peut rapidement conduire à la mort. Donc, les craintes peuvent être justifiées. Quand on a Ebola, la mort peut survenir rapidement, d'autant plus qu'aujourd'hui, on n'a pas de traitement. Vous allez me dire que le VIH aussi n'a pas de traitement. Il est vrai. Mais le VIH est aujourd'hui classé parmi les maladies chroniques, c'est-à-dire avec les ARV, on ralentit la réplication virale. Et l'immunité reprend normalement et la personne vit normalement comme une personne qui n'est pas infectée par le VIH. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le cas avec le virus de l'Ebola, mm-hmm. où il n'y a même pas de médicaments. Mm-hmm. Il n'y a pas non plus de vaccins. Donc, quand on a le virus de l'Ebola, le pronostic peut être fatal dans la majorité des cas. Mmh. Donc c'est tout à fait normal que les gens puissent craindre beaucoup plus Ebola que le VIH.
Merci docteur. Notre collaboratrice ici, Sarah Diaby, s'est penchée sur la question de l'hygiène hospitalière. Il y a 2 semaines, nous avions parlé avec votre ministre de la Santé qui insistait justement sur l'importance de l'hygiène hospitalière.
Au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, les années à venir changeront-elles les choses dans les hôpitaux? Les hôpitaux africains seront-ils mieux équipés, mieux soignés, plus propres? Dans la plupart des centres de santé ou hôpitaux africains, les conditions d'hygiène ne sont malheureusement pas très bonnes. En Afrique, l'on dit souvent que les hôpitaux sont des mouroirs ou des lieux où l'on n'a plus de chance d'attraper une nouvelle maladie que de guérir de celle que l'on avait avant de s'y rendre. À l'heure où le VIH fait des ravages en Afrique, près de 25 millions de séropositifs, où le virus Ebola a fait des milliers de victimes sur le continent africain, les États et les personnels soignants des hôpitaux africains devraient s'engager sur la conception, la réalisation et la réussite d'une meilleure hygiène dans les maternités, les hôpitaux et les dispensaires. Les caractéristiques du manque d'hygiène dans certains centres hospitaliers africains se multiplient tous les jours. Le personnel de l'hôpital, surtout les infirmiers et sages-femmes qui font continuellement des injections, des perfusions intraveineuses, ne se protègent pas toujours et la plupart du temps n'utilisent pas de gants. L'on pourrait ranger l'absence des gants dans le chapitre de la pénurie des équipements hospitaliers, mais dans certains cas, médecins et infirmiers ne les trouvent pas nécessaires pour juste quelques minutes de soins. Un comportement irresponsable dû à la paresse de les porter ou à l'inconscience. Le sous-équipement des hôpitaux reste et demeure une réalité en Afrique. Pour l'instant, nous ne parlons pas des appareils destinés aux examens médicaux tels le scanner, mais le petit matériel basique de consultation manque cruellement. Gants, seringues pour les injections, seaux et même les chaises manquent parfois pour les accompagnateurs de malades. Alors, médecins, infirmiers et sages-femmes font avec les moyens de bord comme ils le disent souvent. Les hôpitaux, dans la plupart des cas, manquent de toilettes, de sièges, de lits, de brancards et souvent n'ont pas d'ambulance. Dans certains centres hospitaliers, les malades se couchent à même le sol où ils sont reçus en attendant qu'un probable lit qui n'existe peut-être pas puisse bien vouloir se libérer. Les consultations sans gants, l'utilisation de matériel médical usé et leur non-désinfection représentent autant d'actes auxquels les médecins devraient mettre un terme. Ils devraient plutôt donner l'exemple en matière d'hygiène. Une petite erreur est une grande porte ouverte à une bactérie, à un microbe capable de bouleverser une vie. L'hygiène devrait entrer dans les mœurs, mais c'est pourtant un rêve qui est encore loin des réalités des centres de santé en Afrique. Mais rien n'est encore perdu. Chez le personnel soignant, une prise de conscience urgente est nécessaire. Cohabiter avec la mort n'enlève rien à la valeur sacrée de la vie et à l'espoir que même un patient ou un malade agonisant place en eux. Ils doivent s'efforcer à avoir des comportements plus responsables pour une meilleure hygiène hospitalière.
Sarah Diaby, chouchou.
Docteur, vous avez un commentaire par rapport à, à cette chronique?
Oui, ce que je pourrais dire, il est vrai, tout ce qu'elle a dit est vrai, mais il faut aussi reconnaître que ça dépend des milieux. Le tableau n'est pas aussi macabre comme elle vient de le présenter dans tous les milieux. Il y a de ces milieux démunis, mais il y a quand même des milieux, des endroits, des villes où on a quand même un plateau technique assez élevé. Ce n'est pas dans tous les milieux qu'on peut trouver ce tableau macabre.
C'est vrai qu'elle parle de certains centres hospitaliers et elle utilise beaucoup le mot « souvent » et aussi « certains ». C'est vrai.
Effectivement. Elle a raison. L'Afrique doit faire un effort dans les milieux où le tableau est sombre. On doit faire un effort pour renforcer les capacités des prestataires en ce qui concerne les précautions universelles.
Merci.
Nous allons nous revenons vers Bukavu avec Linda. Linda, vous avez une question? Vous avez un commentaire?
Voilà, j'avais 2 questions donc. La première concernait l'allaitement maternel et risque que les enfants courent en étant allaités. exclusivement au lait maternel avec des mères porteurs du VIH. Et la deuxième question était de savoir si les personnes porteurs du VIH sont exposées davantage que ceux qui sont sains par rapport au virus de l'Ebola.
Concernant l'allaitement maternel, je n'avais pas bien suivi.
Est-ce que les enfants risquent...
Mais, les risques d'infection par l'allaitement maternel. Si c'est l'allaitement exposer l'enfant à l'infection.
C'est ça.
Je parle d'une manière générale. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, les humeurs ou les liquides qui peuvent transmettre le virus d'une personne à une autre, les liquides à forte transmission, si vous voulez, on a d'abord le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et les laits maternels. C'est tout à fait normal que lorsque la maman est infectée par le VIH, si la maman allait l'enfant, l'enfant court les risques d'être infecté par le virus du sida. Mais avec l'approche actuelle, où on commence les traitements précocement, même quand on donnait la prévention avec une seule molécule, les ARV qu'on donne réduisent sensiblement la quantité du virus dans le sang, dans les autres humeurs, donc à savoir les sécrétions vaginales, le sperme, même dans le lait maternel. En ce moment-là, l'enfant court moins les risques d'attraper le VIH.
Très bien.
Mais néanmoins, malgré la PTME que nous sommes en train de faire actuellement, c'est-à-dire soumettre la maman infectée par le VIH sous traitement ARV afin de réduire la charge virale, on donne également à l'enfant une prévention, on lui donne une molécule d'ARV pendant 6 semaines, 4 à 6 semaines si vous voulez, si on donne la nédirapine de 6 semaines, AZT c'est 4 à 6 semaines. Et avec ces moyens, les risques de transmission du VIH à travers le lait maternel est sensiblement réduit. Et pas seulement avec le lait maternel, mais d'une manière générale. Même le taux assez fort de transmission, c'est lors de l'accouchement. Et c'est 60-75% à peu près. Et ce risque-là également est réduit parce que la charge virale est réduite. Et avec l'approche PTM utilisée actuellement, bien appliquée, les taux, les risques de transmission devient inférieur à 2%. On parle aujourd'hui de l'élimination même du VIH.
D'accord.
Est-ce que vous... Chez les enfants.
Est-ce que, merci beaucoup pour cette précision. Est-ce que vous pouvez rapidement répondre à la deuxième question de Awa sur, sur Ebola et chez la personne
séropositive? Ebola et le VIH. Mm-hmm. Là, c'est une réponse courte. Les personnes infectées par le VIH et les personnes non infectées par le VIH courent le même risque une fois exposées devant un patient qui est infecté par le virus d'Ebola.
Merci.
Il n'y a pas de différence.
Très bien, nous allons retourner à Goma.
Goma, Mustapha, vous êtes là. Et est-ce que vous avez
une dernière question
pour clôturer cette série?
Oui, j'ai une très petite question. Au niveau de Goma, à l'hôpital Hill Africa, il y a des structures qui s'occupent des enfants, disons, nés PVV, protéger les enfants nés des parents PVV. Alors, je voulais demander au docteur si dans d'autres provinces, il existe ces structures comme chez nous à Goma, à Hill Africa.
En ce qui concerne Hill Africa, c'est une structure que je connais très bien. Et Hill Africa est bien organisée. Vous avez parlé de financement que reçoit Hill Africa. Si il y a d'autres structures, oui, effectivement. PEPFAR intervient dans beaucoup de sites au niveau du pays, mais principalement dans certaines provinces. Malheureusement, le PEPFAR n'est pas dans toutes les provinces. Si Hill Africa est bien organisé, Hill Africa reçoit le financement du président américain, le financement du Fonds mondial et d'autres partenaires. Il y a également des sites dans ce pays qui reçoivent le même financement et qui travaillent également comme Hill Africa.
Merci docteur, merci. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous entendez Sam Smith. Au revoir docteur et c'est un plaisir de vous avoir, comme toujours d'ailleurs. Et tirer profit de votre large expérience en matière de PTME. Merci beaucoup, docteur. Bonne soirée à Kinshasa.
Merci.
Merci, docteur, et bonne soirée à vous.
On dit au revoir à nos correspondants aussi. Merci. Au revoir, Awa.
Au revoir, Mustapha. Et Chabani.
Chabani aussi.
Au revoir et merci, bonne santé.
Ok. Bonne santé, bonne soirée à tout le monde.
Au revoir.
Voilà. Nous sommes à la fin de l'émission. Votre santé, votre avenir, c'est terminé.
Avec vous, nous avons eu au micro Khalil Gueye comme présentateur
avec
principal.
Avec Chouchou Kawa qui est venu de Kinshasa et qui va rester définitivement ici. Technique Keith. Holmes et à la réalisation, nous avons Georges Léonard Sagnot. Vous avez aussi écouté la chronique de Sarah Diaby. À la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.